Salut les dresseurs, salut les dresseuses, c'est Lou, votre journaliste Ouest France, expert en Pikachu, et je vous accueille dans notre podcast Le Poké Talk pour tout savoir sur Pokémon en compagnie de Malison, le célèbre professeur lapin. Actu, décryptage, jeu rétro, on vous dit tout. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Poké Talk, un podcast Ouest France. C'est moi Lou, votre expert Pokémon, et je suis en compagnie de l'expert francophone Pokémon par essence, j'ai envie de dire, le plus grand professeur Pokémon français, j'ai envie de dire, mon cher Mali, le professeur lapin.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette description qui est assez enjolivante pour moi, mais ça fait plaisir.
Écoute, lançons-nous des fleurs, on se retrouve depuis un bon petit moment, on a eu une petite traversée du désert, toi comme moi, au niveau personnel, ce qui fait que
oui.
Ça a été un petit peu compliqué pour se retrouver depuis la sortie du jeu Pokémon, mais depuis le temps, on s'est dit, allez, il faut qu'on parle du DLC quand même, essayer de donner des rendez-vous un petit peu plus réguliers, et là, c'était l'occasion, avec la diffusion d'un Nintendo Direct le 21 juin, dans lequel ils ont donné des nouvelles, justement, du DLC de Pokémon Écarlate et Violet. On va donc en parler dans cet épisode. Le DLC, je le rappelle, s'appelle Le Trésor Enfoui de la Zone 0 et il sera disponible du coup en fin d'année 2023. Il sera en deux parties comme le DLC du coup des versions épée et bouclier. On parlera également en fin d'émission du retour de Détective Pikachu en jeu vidéo. Mais d'abord, donc, parlons de ce DLC. Deux parties, donc, intitulées Masque Turquoise, Disque Indigo, pour rester dans la thématique des couleurs. On va commencer par aborder les nouveaux Pokémon. Chaque partie va évidemment proposer de nouvelles créatures. Je te propose, mon cher Mali, tout d'abord, de me donner ton avis sur le trio, on peut dire, du Masque Turquoise. Felicanis, Fortusimia, Favianos. Donc un oiseau, un singe et un espèce de grand matou, on dirait un petit peu Félinferno recyclé, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu penses du design de ces créatures ?
Je crois que déjà le matou, entre guillemets, c'est plutôt une sorte de chien, parce qu'en anglais il s'appelle Okidogi.
Mais t'as raison, Felicanis.
Oui, Canis en plus.
Mais
oui,
voilà. Canin.
Voilà,
effectivement.
Donc tu as raison pour Félinferno, c'est un look un peu, un petit peu très musclé, très grand, très humanoïde. Les trois en fait se ressemblent pas mal dans l'absolu, parce qu'ils ont pour point commun d'avoir chacun un code couleur vraiment défini. Donc déjà tous sont de base noirs, mais le singe est bleu, le chien est vert et l'oiseau est rouge. Et en plus, ils ont, ça peut être une écharpe, ça peut être un bandeau, quelque chose de couleur violette. Donc ils se tournent autour d'un même concept. Et d'ailleurs, bah, je pense que j'en parlerai après, c'est un lien avec quelque chose. Personnellement, j'aime pas du tout le singe, je sais pas, le Fortusimia, il est tout petit. Normalement, Fortu, c'est la fortune, c'est la chance.
Fortune, c'est quelque chose comme Félix, hein. Félicanis, Félix, ça. Pas félin, c'est Félix, c'est la chance. Félix Félicis, hein, pour les fans de Harry Potter.
Et puis Faviano, la faveur, donc oui, c'est touche quelque chose de positif, mais je sais pas, ce petit singe, il a un air un peu... limite pervers en fait, pas très sympa, donc il me plaît pas trop. Le chien Felicanis, oui, il a une tête un peu badass, et ouais, Favianos, je trouve en fait que son artwork est vraiment stylé, vraiment voilà, majestueux tout ça, mais malheureusement, sur le site officiel, on peut voir une ou deux captures d'écran en combat, et là, on voit qu'il a ses ailes tout le temps déployées, comme la mini gosier, et je trouve que ça rend très mal, et je suis un peu déçu, voilà.
Physiquement, je trouve qu'ils ont un petit peu du mal à s'intégrer avec ce qu'on connaît d'habitude des Pokémon. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui fait... Est-ce que c'est vraiment des Pokémon ? Je saurais pas trop dire. Surtout sur Felicanis, d'ailleurs. Et un petit peu Fortusimia. Favianos, pour le coup, je trouve que c'est celui qui fait le plus Pokémon de tous et qui s'intègre bien à l'univers. Mais... je sais que c'est un petit peu le faux truc, hein, le faux reproche, ces Pokémon ne ressemblent pas à des Pokémon. Mm-hmm. Mais... tu vois, ouais, des espèces d'effets qui... Je sais pas, j'arriverai pas à te décrire, mais vraiment, j'adhère pas trop.
Limite Fortusimia, à sa petite tête, il y a un petit peu d'Akira Toriyama dedans, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, je le trouverais bien dans un Dragon Quest, par exemple.
Bah ouais, pourquoi pas. Et Felicanis, je sais pas, dans un. Comment s'appelait ce jeu qui. Ah mon dieu, qui a disparu. Qui faisait de l'ombre à Pokémon à une époque. Et qui maintenant, on a même complètement oublié son nom.
Yo-Kai Watch?
Yo-Kai Watch, voilà. Limite, ça me dérangerait même pas que ce soit de la concurrence, quoi. Je sais pas, ils apportent quelque chose qui m'étonne un petit peu. Bon, après, c'est peut-être une question d'habitude aussi, simplement, parce que je suis sûr qu'à chaque génération, je dois me faire cette réflexion-là sans m'en rendre compte, et au final, c'est juste une question d'habitude aussi. On connaît pas encore leur type, à part Favianos, qui, à mon avis, il sera de type vol. Il n'y a rien d'assez évident. Est-ce que tu penses qu'ils partageront tous un même type?
Je pense oui, parce que le site officiel nous a indiqué un talent qu'ils auront tous les trois et qui s'appelle Chaîne Toxique. En gros, à chaque fois que les trois Pokémon attaqueront un adversaire, ils auront une chance d'infliger un poison grave à la cible. Et là, ça laisse poser pas mal de questions, parce que bon, c'est bien mieux qu'un point poison, par exemple,
Oui.
puisque déjà on parle du poison de toxique, donc le poison progressif qui est de plus en plus rare de nos jours. Ensuite, on parle de n'importe quelle attaque, que ce soit physique, spéciale, contact ou non. On ne sait pas encore si ça peut fonctionner sur certaines capacités de statut. Mais s'il y a un bon pourcentage, donc c'est-à-dire si on part d'un 30, voire d'un 50, ce serait vraiment très intéressant. Donc j'imagine que les trois auront un type poison. Parce que bon, on en parlera avec Guerpon, à mon avis, comme ce sont les héros du village, il faut qu'ils aient quelque chose pour l'affronter sérieusement. Il y a quelque chose aussi qui me donne peut-être une indication, c'est les couleurs et aussi la façon dont on les voit dans le trailer. On les voit tous les trois présentés avec une petite cinématique, ils sont les trois côte à côte, vraiment ils attendent le dresseur, la dresseuse. C'est quelque chose d'assez peu commun, quand on avait vu Articodin, Lector, Sulfurade, Galar autour de l'arbre, bah, ils étaient en train de faire leur vie, de s'attaquer je crois, je sais plus. Et là en fait, j'ai vraiment l'impression que on reprend un petit peu un délire de starter, qu'au début du DLC, eh bien, on fera la rencontre d'héros qu'il faudra en choisir un parmi les trois
Ouais.
pour nous accompagner et affronter le méchant. Et avec le code couleur, bah, ça correspondrait très bien à eau, feu, plante. Donc eau, poison, feu, poison, plante, poison. Même si on a un oiseau dans le tas, après, des oiseaux qui ont des attaques vol, qui ont lame d'air, qui ne sont pas de type vol, bah, on a Archiduc par exemple, qui était plante spectre ou plante combat. Donc ce serait une possibilité, même si quand même, voilà, le type vol pour lui il semble vraiment vraiment évident, mais on sait jamais.
Effectivement, c'est vrai que c'est une supposition, mais rien n'est moins sûr. Effectivement, donc ce côté couleur aussi est très très marqué, comme tu l'as dit. C'est vrai que moi aussi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aura pas un choix à faire? J'espère pas, parce que pour compléter du coup mon Pokédex vivant,
Oui.
c'est un petit peu relou. Hein, si on veut avoir les trois, s'il faut faire trois fois le DLC, c'est embêtant. Mais bon, on le fera hein, si on veut tous les Pokémon. Et comme à chaque fois, je veux tous les Pokémon. Ça, c'est donc pour ce petit trio, mais tu as parlé effectivement d'Ogerpon, Ogerpon, je ne sais pas trop comment on va le prononcer,
Oui, je...
donc qui sera face à eux, et qui est donc la mascotte, entre guillemets, le fameux masque turquoise en fait, finalement. Si tu imagines ce type poison pour ce trio, j'imagine que c'est parce que tu donnes un type qui serait faible face à poison à Ogerpon, tu penses à plante, tu penses à fée, tu
Très
penses à fée-plante.
certainement au moins plante, tout simplement parce qu'on le voit en gros plan et même on le voit sur son artwork, sur ses petits pieds. En fait, chaque pied, il y a une petite pousse d'herbe qui est en train de grossir, donc ça ressemble vraiment à quelque chose de végétal. Ce serait bizarre qu'il ait pas le type plante, vu comme ça. Mais bon, encore une
Alors,
fois.
il porte un masque assez particulier, hein, ce
Oui?
fameux masque turquoise dont il est question ben dans le nom du DLC. Il fait un petit peu penser à l'éclat justement du Terra Crystal. Est-ce que tu penses que cette créature aura un rapport avec le Terra Crystal? Je te pose la question tout de suite parce que quel va être le lien aussi finalement avec la zone 0? Je rappelle que le nom de l'entièreté du DLC, c'est le trésor de la zone 0. Or, bah comme on le verra après, parce que d'abord on parle des nouveaux Pokémon, on va se retrouver dans une nouvelle région. Donc quel rapport avec la zone 0 pour l'instant? Franchement, je vois mal.
C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il faut savoir quelque chose. Déjà, c'est que ce DLC, cette première partie, donc le masque turquoise, il pourra être joué n'importe quand dans l'aventure. En fait, dans l'aventure Écarlate-Violet, je crois qu'il faudra juste avoir le Pokédex ou d'avoir
Ouais.
le bracelet. C'est indiqué sur la boutique quand on précommande. Donc,
Comme Isole Armure dans Épée
c'est
Bouclier.
ça. Et puis Couronnage aussi, d'ailleurs. Les deux étaient du même acabit.
Ouais, alors
Et.
Couronnage était accueilli par un combat niveau 60, donc c'était un
À
petit peu
niveau 70,
plus
oui, mais tu pouvais quand même
difficile.
continuer si tu le perdais. Je l'ai fait. Voilà, qu'on gagne ou qu'on perde, ça n'a aucune importance. Et donc, d'ailleurs, c'est pour le speedrun du jeu, ça peut être très intéressant de passer par Couronneige, de faire la première entre et d'avoir un Pokémon niveau 70, je crois.
Ah bah oui.
Et de rouler sur le jeu avec. Vu qu'on est dresseur original, il n'y a pas de problème de Pokémon qui n'obéit pas. Mais en fait, là, je pense qu'on aura un petit peu du matériau supplémentaire, notamment au niveau des masques, parce qu'on voit le masque d'Oggerpon. On voit aussi des masques dans le festival qui correspondent aux héros, mais des masques qui n'ont pas tout à fait la même tête, voilà, qui paraissent un peu plus... Donc est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, des nouveaux objets, quelque chose qui donne un Terra Crystal, pourquoi pas des formes Terra Crystal un peu particulières, comme on avait le Gigamax à l'époque.
Ah.
C'est quelque chose qui est un petit peu dans les airs, ça, pour l'instant, c'est... Il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que ça soulève des mystères, et autant pour cette partie du DLC que pour le prochain, celui d'après, on n'a pas de réponse, en fait. On nous tease, mais on n'a pas vraiment d'indications précises.
Très bien. Passons au deuxième DLC, du coup, avec les nouvelles créatures du deuxième DLC. Pour l'instant, on n'en connaît officiellement qu'une seule, c'est Terrapagos, qui sera donc au cœur du deuxième DLC, le disque indigo. Le disque, c'est Terrapagos, donc c'est une tortue. Donc elle a une forme de disque, effectivement. Et si vous vous souvenez, elle est évoquée, du coup, dans le livre violet et le livre écarlate que vous trouvez à la fin du jeu, de la version principale. C'est ce fameux Pokémon mystérieux qui ressemble à un disque, tout ça, qui est sur une des dernières pages de ce livre que l'on trouve dans la bibliothèque de l'Académie. Alors, c'est une tortue qui a la particularité d'avoir sur ses écailles, elle a donc 18 écailles, plus une 19e en forme de cristal, ces 18 écailles qui représentent chacun des 18 types de Pokémon. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi ? Est-ce que c'est une créature un petit peu à la Arceus qui pourra changer de type comme ça à la volée ?
C'est difficile à dire, mais bah, pour sûr, c'est cette créature, je pense qu'elle est même à l'origine du Terra Crystal. Dans tous les cas, elle est très, très liée au Terra Crystal, même je pense qu'elle en est à l'origine. Parce que de toute façon, je parlais tout à l'heure que le premier DLC pouvait être fait n'importe quand. Pour jouer au disque indigo, il faudra d'abord avoir terminé l'histoire de Palda, puis l'histoire du masque turquoise. Donc vraiment, là, on est sur une conclusion de l'histoire, donc on devrait apprendre pas mal de choses. Et c'est vrai que ouais, on a vraiment plusieurs possibilités là-dessus. Est-ce que ce sera un Pokémon qui pourra Terra Crystal en ce qu'il veut ? Est-ce que ce sera... C'est très compliqué à dire. Ça a peut-être un lien avec la petite tortue qu'on a vue dans l'animé.
Voilà, j'allais y venir. On a vu effectivement, je crois que c'était même le premier épisode du tout nouvel animé Pokémon, dans lequel on découvre donc une tortue qui lui ressemble grandement, très clairement, c'est soit sa pré-évolution, soit une autre forme de cette créature, hein, les deux sont liés indubitablement. Encore que on peut être surpris hein, maintenant avec les formes paradoxes, évidemment.
Oui.
Il y a des liens qui existent mais qui ne sont pas établis à certains niveaux, mais à mon avis clairement là on est sur l'ordre de l'évolution de la forme de la même créature qui est donc cette espèce de tortue mais sans tous les symboles de type sur le dos. En fait elle est liée au Terra Crystal un peu, elle pourrait être liée au Terra Crystal un peu comme Eternatus était finalement lié au Gigamax, Dynamax dans Épée Bouclier.
Oui, je pense tout à fait. Pour l'instant, comme tu dis, on ignore. Il y a plusieurs hypothèses qui pourraient partir soit dans la récupération, comme les cellules de Zygarde, soit de devoir, parce que pareil, on capturait 18 avec chacun un terratype différent pour ensuite, je sais pas, faire une sorte de fusion pour avoir le vrai Terrapagos. Voilà, il y a plein d'idées pour l'instant, mais oui, c'est vrai que cette petite tortue qui apparaît dans l'animé, ça me fait vraiment penser au petit noyau et aux cellules de Zygarde qu'il y avait eu dans l'arc X, Y et Z, je crois.
Ouais.
Ça me fait penser à ça, donc pour l'instant, attendons, quoi.
Et entre nous, t'aurais vraiment envie de repartir à la chasse aux cellules et au cœur ?
Absolument pas, non, mais ils sont bien capables de nous faire quelque chose comme ça.
Oh là là, c'était pas un truc que j'avais... J'aimais bien l'idée, mais le fait qu'il faille vraiment tout, c'était...
Ah ouais, non.
C'était galère. Bon voilà, en tout cas pour les 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon que l'on connaît pour ce DLC, on espère évidemment qu'il y en aura d'autres. Déjà, on sait qu'il y a d'anciens Pokémon qui seront de retour, plus de 230 anciens Pokémon. Ça portera le total à plus de 650, je dirais, quelque chose à vue de...
Quelque chose comme ça, oui.
À vue de nez, donc sur quand même 650 sur plus de 1000 Pokémon actuellement. On est à 1010, quelque chose comme ça. Je tiens même plus les comptes tellement il y en a, mais c'est sûr qu'on a battu les 1000, vu que c'est notre ami Gromago, le 1000ème. Parmi les anciens Pokémon qui vont revenir, on peut citer Milobelus, Lucanon, Fenard, Yanma, tout le monde s'en fiche de Yanma, mais bon, Zeblis, Farfaduvé, on est très content, Metalos, Charmilly, Lamantine, Psystigris, tout ça. Est-ce qu'il y en a qui te manquent parmi les anciens qui sont pas présents dans le jeu de ton côté?
Bon, on va dire, j'aime bien Excabarène, donc il va me manquer un petit peu,
oui.
Forcément. On le voit toujours pas en plus. Donc je pense que, de toute façon, c'est un Pokémon. Je pense que même chez Game Freak et toute la Pokémon Company, ils l'ont oublié parce que c'est un Pokémon qui n'a jamais eu de peluche à son effigie, jamais eu de figurine officielle. Enfin, il y a rien. Enfin. En fait, tout le monde s'en fout à part moi, j'ai l'impression. Donc,
Ouais, mais il est super célèbre grâce à toi. Et c'est bien de choisir un Pokémon, justement, qui est assez, va dire, pas inconnu, mais un petit peu lotière.
Oui, c'est ça.
Pour être honnête.
Là, il n'est pas si mauvais que ça en combat, mine de rien. Avec
en célébrité, en tout cas, il est lotière.
Non, c'est vrai qu'en célébrité. Mais je l'aime bien. Après, on verra. S'il n'est pas dans cette génération, bah, tant pis. Ce sera peut-être pour la prochaine, mais... Mais personnellement, je suis content. Comme je fais un petit peu de combat, ça va étendre le nombre de Pokémon disponibles. Après, si mon préféré n'est pas là, tant pis. Hein.
Ouais, mais c'est toujours un petit peu triste. Je sais que ça paraît difficile d'avoir les 1000 Pokémon jouables dans un seul jeu, mais moi, ce que j'espère, et ce qu'ils pourraient faire un jour, c'est faire comme Pokémon Battle Revolution, c'est-à-dire un jeu de combat uniquement sur le combat, pas de RPG,
ça.
Mais dans lequel tu as tous les Pokémon modélisés. Et ça se vendrait! Ça se vendrait, bien sûr.
Bah, c'est
ça
sûr.
Se vendrait.
Relié à nos
argent,
jeux via le home, par exemple.
Mais voilà. Ouais. Mais voilà. Argent hyper facile. Pourquoi ils font pas ça? Franchement, je ne comprends pas. Est-ce que tu espères d'autres nouveaux Pokémon, des Pokémon inédits mais qui seraient pas des légendaires ou des Pokémon hyper rares comme selon ce vers quoi on se dirige avec Félicanis, etc. Est-ce que des Pokémon communs, ça te plairait, des nouveaux Pokémon communs?
J'aimerais bien, mais j'ai du mal à y croire. Pour l'instant, le seul élément de comparaison, c'est les DLC Isolarmure et Couronneige. Et à l'époque, le seul Pokémon commun, c'était Ramolos de Galar et ses deux évolutions.
C'était au moins une forme. Alors, le problème en plus de Pokémon Écarlate et Violet, c'est que niveau forme, ça a été hyper radin avec Tauros et Axolotl. Est-ce que tu crois quand même qu'ils pourraient nous mettre une petite forme supplémentaire, histoire d'eux?
Ça pourrait être peut-être une forme convergente à la Topico et Terracruel.
Ouais,
pourquoi pas,
Terracool,
quelque chose comme ça. Mais je pense que on devrait. Ce qui est peut-être le plus probable, c'est de nouvelles formes paradoxes en fait, basées sur des Pokémon.
Ouais.
On a eu des équivalents Suicune et.
Exactement.
C'était lequel? Cobaltium.
Cobalt.
Non, Viridium, le vert. Voilà. Est-ce qu'on aura les autres? C'est quelque chose en suspens aussi.
Donc là, tu parles de la distribution, la mise en route des raids de Serpentot et Vert de Fer, qui était vraiment pas évident à capturer, Vert de Fer d'ailleurs. Je sais pas si t'as galéré toi aussi pour l'avoir. Autant Serpentot, ça allait, mais alors Vert de Fer était vraiment pas sympa.
Bien, en fait, Vert de Fer, je l'ai pas fait parce que à ce moment-là, j'avais personne sur Violet, j'ai un peu traîné, donc j'ai juste mon Serpentot. Ah. Voilà.
Je remercie Santiture pour le coup de main pour avoir capturé ce Pokémon. Quelle horreur à capturer, c'était vraiment. En plus, pour un Pokémon que j'aime pas, je suis pas très fan des paradoxes du futur, hein. Je trouve qu'en termes de design, je les trouve un peu plus
fades que ceux du passé.
Il y en a qui sont très, très bien réussis, d'autres je trouve ça un peu moyen et un peu trop copier-coller en fait, c'est toujours finalement, hop, on prend le Pokémon, on le transforme en robot. C'est ça.
Ouais, moi je suis pas fan des paradoxes tout court, notamment à cause de leur nom, je comprends pas pourquoi ils leur ont donné des noms qui sont finalement des caractéristiques plutôt que des noms. Ça, on le saura peut-être via les DLC, mais je sais pas, je trouve ça bizarre.
Ça rejoint peut-être ton hypothèse du coup sur le côté est-ce vraiment des paradoxes du passé et du futur ou plutôt de l'imagination? On verra bien ça. J'aimerais bien vraiment qu'on creuse. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on retrouve quand même, ce serait bien de mettre Raikou Entei et Cobaltium et Terrakium et potentiellement le petit le fabuleux.
Keldeo, voilà.
Keldeo, ce serait bien qu'on les ait potentiellement en paradoxe pour compléter un petit peu les trios finalement. Mm-hmm. Mais aussi les chimères qui elles aussi apparaissent dans le livre violet et le livre écarlate qui étaient des créatures hyper intéressantes. Le coup de la chimère fait de Pokémon paradoxe, enfin, j'ai trouvé l'idée absolument génial. Est-ce que c'était juste un délire pour mettre dans le livre, pour montrer à quel point ces livres sont farfelus, justement, ce qui peut être aussi le cas? Ou est-ce qu'on aura le droit de capturer cette créature? Tu penches pour quelle hypothèse, toi?
Ça pourrait être bien, plutôt que capturer, je me dis que ce sera peut-être un objet à la Kyurem. Tu sais, tu prends
Ah
Kyurem et tu
oui.
prends soit Zekrom, soit Reshiram, et hop, ça te fait un Kyurem noir ou un Kyurem blanc. Et là, peut-être que si tu as les trois dans ton équipe, tu utilises un objet, et hop, ça te fait la chimère très étrange, et j'imagine très puissante. Je vois bien un truc comme ça. Ce serait. Ouais, ça pourrait être juste une sorte de. Sorte de
Pointo
fantasme
ADN,
de voilà
voilà.
de oui voilà ou juste le je crois que c'est une dessinatrice qui a dessiné ça à partir de Pokémon, peut-être juste son imagination qui donne sur rien, mais ce serait intéressant.
On verra bien en tout cas. On va revenir un petit peu sur le contenu de ces jeux. Donc, je rappelle le masque turquoise et le disque indigo. En deux parties, deux univers très différents. Pour le coup, ils nous ont fait le classique à la japonaise entre tradition et modernité. La tradition, c'est le masque turquoise. La modernité, c'est le disque indigo. On va commencer par parler du masque turquoise qui nous emmène dans une nouvelle région. Et non, ce n'est pas le sud de Kalos. Désolé. Et pour le coup, c'est plutôt le nord puisque la région s'appelle Septentria. Donc on imagine qu'elle se situe au nord de Paldea. On n'a pas plus d'informations. Est-ce que c'est d'ailleurs le nord, le nord-est de la carte? On ne sait même pas. Ça se trouve peut-être pas. Mais ça se trouve peut-être que oui. Mm-hmm. Donc grande surprise. Une région assez, assez variée comme on l'a vu, avec des villages très traditionnels également, des tenues traditionnelles. On sait qu'on aura de nouvelles tenues d'ailleurs au passage, pour ceux que ça intéresse. Je sais pas si toi t'aimes bien habiller ton personnage ou si tu t'en fiches complètement.
Je m'en fiche en fait. Généralement dans Pokémon, je trouve une tenue qui me plaît, qui est un petit peu différente de la tenue de base, enfin quelque chose qui me va, puis après j'en change plus. Voilà.
Tout le jeu avec, je fais exactement pareil. J'ai l'impression qu'on se situe avec Septentria sur quelque chose d'assez classique finalement, qui ressemblera à du Paldea en plus petit, et on explore finalement une région, une nouvelle région, avec des petites quêtes classiques comme on a eu là. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre dans celui-là?
Bah, je vois une forte inspiration de Johto, qui est d'ailleurs bien poussée de leur côté.
Oui,
alors,
le côté traditionnel.
Traditionnel, architectural, tout ça. Mais ils nous mettent bien en évidence des Pokémon de deuxième génération. D'ailleurs, ils nous ont dit, hey, dans Écarlate, vous pourrez avoir, je ne sais plus, c'est Yanma et puis Violet, Capuma en exclusivité. Non, c'est Scorplan, pardon. Je sais pas, ils mettent l'accent dessus. Alors, j'ai vu des trucs, oh, c'est pour nous utiliser un potentiel Let's Go Johto. Je pense qu'il ne faut pas en aller jusque-là. Mais bah, ce serait bien qu'ils fassent quelques petits trucs avec des Pokémon de Johto. Je les aimais bien, moi. Puis ce
moi
serait
aussi.
Bien de leur redonner un petit plus. Mais il y a quelque chose d'intéressant, alors je sais pas si je vais en parler tout de suite parce que t'as peut-être 2-3 autres trucs à dire dessus, mais c'est un peu quelque chose que j'ai observé et qui donnera un indice sur certaines choses. T'aurais quelque chose à rajouter dessus avant que je parte dans mes...
Bah, du coup, tu m'as rendu hyper curieux, donc j'ai envie de savoir, raconte-moi.
sur l'une des images, enfin pendant la vidéo, on voit l'entrée d'un temple et il y a des statues de Kaninos de Isui. Et c'est la première fois que dans les jeux principaux, on verra des Pokémon de... Enfin, on voit on voit une statue de Pokémon anciens comme ça. On ne sait pas ce qui est arrivé aux Pokémon de Hisui, pourquoi ils ont disparu au passage à Sinnoh. Mais il est fort possible que dans cet endroit très reculé, très traditionnel, on puisse en trouver à l'état sauvage. Parce que cette statue signifie qu'ils en ont déjà vu. Et donc que ces Pokémon ont quitté Hisui à un moment donné. Donc peut-être que ce serait une bonne justification pour introduire les Pokémon de Hisui à l'état sauvage et les faire relier au monde actuel.
Ça, ce serait cool parce qu'effectivement, donc on rappelle, donc Hisui, c'est dans Légende Pokémon Arceus. Et le principe, c'est que ça se situe très longtemps, du coup, avant l'ère contemporaine de Pokémon. Et toutes les espèces qu'on y trouve, les Serbilins, les... aide-moi, je patauge.
Serbilin, on a Hachécateur, on a Farfurex. Voilà, on peut
tout
les.
Ça a disparu. On ne les retrouve plus, que ce soit les évolutions ou les formes, elles ont disparu. Alors on peut les transférer via le home, mais elles ne sont plus à l'état sauvage dans les autres. Et d'ailleurs, en général, on ne capture pas à l'état sauvage des créatures d'une autre région, comme tu le précisais.
Absolument.
Mais dans le deuxième univers, pour en parler du coup, donc dans le disque indigo et donc l'Institut Myrtille, qui est une espèce d'école dans laquelle on trouvera une espèce de dôme gigantesque découpé en 4 zones différentes. Dans le trailer, on voit bien qu'il y a des créatures d'Alola, par exemple. Il me semble avoir repéré, si je ne me trompe pas, Noix de coco d'Alola.
Noix de coco
donc
d'Alola.
Ça veut dire qu'on aura des créatures d'autres régions dans un autre jeu, ce qui est vraiment pas mal comme idée. Moi, j'aime bien, en tout cas.
Et pour le coup, l'inclusion, je pense qu'elle est plutôt bien faite, parce que d'un côté, on aurait une région voilà, très reculée, très ancienne, qui aurait peut-être pas... dont l'évolution aurait été plus lente qu'ailleurs, certains Pokémon qui auraient survécu, et puis de l'autre, des biomes sous-marins avec des machines qui reproduisent à l'identique des conditions climatiques très particulières. Et visiblement, cette zone, je crois que c'est une zone de plage qui réussirait à reproduire le climat d'Alola. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait évoluer Nonneneuf en noix de coco d'Alola en étant sur place. Et pareil, ça ce serait une grande première parce que les Pokémon d'Alola, on a pu les récupérer par des raids, je crois, dans Épée Bouclier. Il y a eu quelques... Je crois qu'on a eu quelques rencontres en raid, des rencontres événementielles. Et là, ce serait la première fois que ce serait à l'état sauvage. Et surtout, ça permettrait de faire des évolutions parce que, par exemple, quelqu'un qui capture son Pikachu, un Pikachu Shiny en 9e génération, bah, il ne peut pas l'évoluer en Raichu d'Alola. C'est impossible puisque le home ne permet pas de retourner sur 3DS. Donc là, ça permettrait de le faire avec cet endroit-là. Donc c'est bien trouvé, c'est bien pensé.
Et en termes de design, qu'est-ce que tu penses de ce biome un peu artificiel? Moi, ça me fait délirer. On dirait Minecraft, tu sais, sur le côté où t'es dans la neige et puis d'un coup, pouf, t'arrives sur l'île tropicale. Moi, je suis vraiment fan du concept. Ça casse justement le côté, ce côté artificiel finalement qui soit concentré là-dedans. Je trouve ça plutôt malin et ça donne envie un petit peu de voir à quoi ça ressemble. Moi, en tout cas, je suis très curieux.
Bah, j'aime beaucoup aussi. Comme tu dis, entre tradition et modernité, même si ces biomes semblent, enfin ce dôme semble très petit en taille. Il y a un zoom au-dessus et ça semble assez restreint niveau taille. Après, oui, malheureusement, je pense qu'avec nos Coraidon, Miraidon, on risque d'en faire le tour très très vite. Après, j'ai l'impression que cette partie de DLC, elle est pas tant axée là-dessus, mais plutôt axée sur les combats. Vu à quel point l'académie est tournée autour. Bon, j'ai vu au moins deux stades pour faire des combats Pokémon, un en extérieur à la surface, l'autre en intérieur. Il y en a peut-être un troisième, mais j'en suis pas sûr selon les screenshots. Il y a une boutique qui permet d'acheter des objets visiblement pour le combat. On voit d'ailleurs dans le dôme qu'il y a des combats contre des dresseurs en 2v2, ce qui est assez rare. Je sais même pas s'il y en a eu dans cette version, ou très peu en général. Donc je pense que voilà, cette zone sauvage, c'est juste un petit plus qui sera pas là tant pour l'exploration, mais plus pour la capture et peut-être la consolidation en prévision de combat. Ce que j'attends le plus, c'est qu'un DLC basé sur le combat nous rajoute au moins une tour de combat, si ce n'est
que j'allais dire.
Une zone de combat comme on avait sur Emerald. Là c'est le moment ou jamais.
Ouais, mais est-ce que tu crois que si c'était le cas, ils n'auraient pas déjà communiqué dessus, là?
Honnêtement. Je pense pas, parce que les DLC, si on s'en tient à la communication qu'il y avait eu sur Isole Armure Couronneige, mine de rien, le contenu est assez réduit et ils gardent un petit peu le peu qu'il leur reste pour la sortie. Et voilà. Après, je crois qu'on nous a dit qu'on allait avoir d'autres informations pendant l'été, notamment peut-être avec les premières dates de sortie, donc peut-être que ça arrivera par là. Là, en fait, ce que je reproche un petit peu à cette vidéo, c'est que ça ne fait que mettre en image ce qu'on nous avait teasé en février. Et je pense qu'une personne qui n'avait pas été totalement convaincue en février ne le sera pas plus avec cette image-là, avec cette vidéo-là. Donc oui, j'attends d'en savoir plus. Pour l'instant, il y a plein de questions, c'est super intéressant, mais j'espère qu'ils vont réussir à concrétiser ça.
Bah, pour moi, la question principale, c'est quel lien avec la zone 0 et son trésor enfoui? Est-ce que toi, tu entrevois quelque chose du haut de ton regard d'expert?
Pour l'instant, c'est trop... on n'a pas assez d'infos pour ça. Alors, je pense que Terrapagos aura une place centrale là-dedans, mais voilà, j'ignore vraiment comment d'une académie sous-marine on va se retrouver à rencontrer Terrapagos, qui est censé être dans la zone 0, enfin peut-être même dans une dimension alternative. C'est vraiment trop, trop dur. C'est ça que je reprocherais peut-être un petit peu, c'est qu'on nous a montré les univers, quelques personnages, mais on n'a vraiment rien au sujet de l'intrigue, quoi. D'un côté, il y a un méchant Pokémon qui menace un village, et de l'autre, c'est une académie de combat. Il manque quelque chose. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur l'intrigue, oui, voilà.
Moi, j'ai un petit peu peur parce que je trouve qu'ils ont réussi à créer un lore très intéressant dans Écarlate et Violet, peut-être d'ailleurs un des lores les plus intéressants de toute la saga Pokémon, avec vraiment ce dernier arc que tu débloques quand tu fais les trois quêtes principales, avec toute cette exploration du coup de la zone 0, donc dans le cratère, où tu découvres que le professeur, enfin voilà, je vais pas trop vous spoiler si vous avez pas fait le jeu, parce que ça se trouve peut-être que vous l'avez pas fait en entier pour l'instant, mais tu découvres aussi les origines de l'académie Orange ou Raisin, je sais plus les noms dans le jeu, je crois que c'est
ça Orange Raisin, oui.
Tu découvres donc le fondateur, les premières explorations dans le cratère, tout ça, le lien avec les paradoxes, donc ça tu le découvres. Mais comment tout ça va avoir un lien avec ce DLC qui se situe en dehors de Paldea, en fait? Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à créer un lien logique, ou est-ce que ça va être complètement tiré par les cheveux, ou est-ce qu'ils vont carrément abandonner finalement, et au final ça va laisser avec une partie d'histoire comme ça un petit peu à l'abandon. Et je trouve que c'est dommage, parce que la fin du jeu, il y a quand même encore des questions en suspens qui mériteraient vraiment d'obtenir des réponses, parce que je trouve que on tenait quelque chose de vraiment passionnant, rien qu'avec les paradoxes. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à creuser pour rendre ça un peu plus concret, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu comme les ultra chimères et finalement pshoot, et puis on oublie quoi au final, et puis voilà.
Je sais pas. Je pense qu'on aura quand même quelque chose juste par la présence de Terrapagos, mais oui, espérons que ce soit mieux amené que, par exemple, on en parlait tout à l'heure, les cellules de Zygarde qui... voilà, le Pokémon amputé d'une version Z et qui se retrouve en morceaux sur Alola, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'il fait là, il a aucun impact sur l'histoire. Bon, j'espère que ce sera mieux que ça quand même.
Ouais, on verra bien. Le succès du jeu mérite en tout cas qu'il ait une belle fin, une belle conclusion en tout cas, qui permette de clore un petit peu les choses qui sont lancées. En parlant de belles conclusions, et en parlant de finition justement, en termes de gameplay, j'ai noté quelques petits oublis plus ou moins volontaires, puisqu'on sait que c'est des choses qu'on retrouve en général soit dans les versions complémentaires, soit dans le DLC du coup. Est-ce que tu penses qu'on aura du coup des maîtres de capacité dans ce DLC? Assurément il y en aura.
J'espère qu'il y en aura quelques-uns, même si en termes de capacité disponible, on est quand même plutôt servi. Alors par exemple, on pourrait rajouter celle d'Isole Armure, parce que les capacités du dojo, je crois qu'il n'y en a aucune qui est revenue. Il y avait des petits trucs sympas comme... Ah si, je dis des bêtises, au revoir, c'est passé sur certains Pokémon naturellement. Donc il faut voir... perso, je sais pas, je m'attendrais peut-être plus à quelque chose au niveau des objets, parce qu'on nous parle d'un... On nous montre un magasin de jouets, qui semble aussi comporter des pots de... Comment ça s'appelle? De Vitabine, et tu en parlais pour les EV. Je mettrais peut-être une petite pièce sur un accès plus facilité aux protéines, calcium et compagnie, comme on avait eu dans le dojo d'Isole Armure avec son distributeur. Le site officiel vraiment nous parle de ce petit étal avec qui vend des jouets et des et je sais plus quoi. Et bah, je sais pas, je me dis que s'ils mettent un accent dessus, c'est que ça doit quand même servir à quelque chose. J'espère juste que ce sera pas un coup d'épée dans l'eau avec des jouets au sens propre du terme, donc des conneries à balancer quand on fait un pique-nique. Donc voilà,
À mon avis, on peut se diriger grandement vers ça quand même, hein, le pique-nique. J'ai toujours pas compris l'intérêt, mais bon. Ouais. On parlait des EV, effectivement. Alors c'était, on va dire, en off, du coup, avant l'enregistrement. Moi, c'est vrai qu'un des reproches principaux que je fais au jeu... Alors moi, j'aime bien capturer des Pokémon de bonne nature. Donc déjà, mon premier reproche, c'est que le talent synchro ne marche plus sur le terrain. Donc ça, c'est un véritable traumatisme.
Oui.
C'était quand même bien pratique pour capturer des Pokémon de bonne nature. Mais j'ai eu du bol, mon Coraidon, comme par magie, il était rigide, du premier essai, rigide, alors que je ne cherchais pas spécialement à avoir un Coraidon de bonne nature, mais j'ai eu du bol, il l'était, donc ça je suis content. Donc non seulement c'est plus compliqué pour les natures, mais en plus là pour les EV, on n'a plus d'outils comme l'ordinateur qu'on avait dans Épée Bouclier, ou même comme le mini-jeu sur les îles qu'on avait dans à Alola. Donc là je trouve que c'est vraiment dommage, et moi j'ai vraiment besoin d'une fonctionnalité qui va me faire mes EV pendant que toute seule quoi, en gros un timer, tu déposes tes Pokémon et ça se travaille, parce que j'ai pas le temps de jouer un milliard d'heures pour m'acheter des protéines et des ceci cela quoi, c'est pas possible ça.
C'est ça le problème, oui, en 9ème génération soit tu passes vraiment à l'ancienne, donc tu attaques les Pokémon qui donnent le bon nombre de veilles avec les objets. En plus, il n'y a même plus le Pokérus pour booster un petit peu tout ça. Et puis, bah, tout ce qui est protéines et compagnie, c'est 10 000 Poké-Dollars pièce, sauf que l'argent s'accumule beaucoup moins vite. Autant dans Épée Bouclier, tu pouvais prendre un Meowth Gigamax et te faire de l'argent comme ça, mais là, il n'y a pas d'équivalent, et c'est vraiment plus pénible, donc j'espère vraiment qu'il y aura quelque chose pour ça, parce que personnellement, pour les Pokémon que j'attrape en 9e génération, que j'élève, et qui appartiennent aussi à Épée Bouclier, bah maintenant je les renvoie dans Épée Bouclier, je les entraîne là-bas et je les fais revenir. Mais bah forcément, ouais. Ça marche pas pour les nouveaux.
Et moi, du coup, je voulais faire violer avec des Pokémon de bonne nature et avec des bons EV, sauf que je ne peux pas. Donc, je vais le faire, mais avec des Pokémon d'ancienne génération, finalement.
Oui, voilà.
Qui seront compatibles et que j'aurais déjà entraîné dans d'anciennes générations. Mais c'est un petit peu dommage. C'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'en même temps, ils te donnent plus d'outils pour pouvoir créer, entre guillemets, le Pokémon de tes rêves, à savoir les aromates, déjà, qui sont extrêmement pratique du coup pour changer la nature de manière temporaire du coup puisque avec le Pokémon Home, si j'ai bien compris, quand on voyait dans un autre jeu, c'était supprimé le
jusqu'à présent ça l'était pas en tout cas.
C'est ce que j'ai cru comprendre. Je me trompe peut-être, mais il me semblait que j'avais lu ça avec le fait que l'aromate du coup effectivement ça fonctionnait que dans le jeu d'origine.
Ah non, j'ai pas souvenir. Bah, j'ai fait voyager un Mélodelphe que j'ai capturé sur Légende. Je lui ai donné un aromate dans Épée Bouclier.
Ouais.
Et j'ai joué avec dans Diamant Étincelant Perle Scintillante. Et puis il a toujours la nature aromatisée.
Écoute, tant mieux. Peut-être que j'ai mal compris quelque chose. Mm-hmm. My bad.
Non, heureusement.
Je vérifierai ce que j'ai. Mais en tout cas, t'as les aromates qui sont là. Mais du coup, on te retire Synchro aussi, qui était quand même. Bah, très pratique finalement, et qui t'enlevait pas le fait de devoir capturer les Pokémon, les trouver, etc. Mais au moins pour les légendaires, bah voilà, ça a aidé. Et puis voilà, et puis les EV, pareil, on te retire. Donc on te rajoute des choses et on t'en retire d'autres. Ça, c'est un petit peu ça le problème, un petit peu avec la licence Pokémon, généralement. Mais bon, on verra bien. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi, en termes de gameplay que tu aimerais bien voir dans ces DLC ?
Alors, je vais faire le vieux grincheux qui répète tout le temps, mais la deuxième partie du DLC, c'est axé sur les combats, donc s'il vous plaît.
Ah, le Magneto.
Le Magneto VS, d'une part, et ensuite le timer des 60 minutes. Le timer des 60 minutes, techniquement, ils l'ont déjà assoupli, puisque quand tu organises un tournoi avec le module dédié en jeu, eh bien, tu peux mettre des matchs de 60 minutes. C'est possible uniquement comme ça. Alors après, c'est pas très pratique, parce qu'il faut créer un tournoi. Je crois qu'il se lance quelque chose comme 24 heures après, et ça dure que 3 heures, donc tu peux pas choisir ton adversaire, c'est pas génial. Mais bon, ça serait l'occasion, avec un petit Magneto. Là, on est sur une académie basée sur le combat. Ils sont en train de faire plein de choses pour les championnats du monde, là, qui vont se dérouler au Japon. Il y a une série de vidéos qui est en train de sortir, ils mettent le paquet dessus. Et toute personne qui veut s'améliorer en combat Pokémon, en stratégie, mérite de pouvoir visionner des matchs, que ce soit ses propres matchs, comme des matchs de compétiteurs, compétitrices de meilleur niveau. Ça a toujours été comme ça, l'observation, l'apprentissage, et c'est vraiment dommage qu'ils aient enlevé ça. Donc vraiment, je croise les doigts là-dessus, même si, voilà, on va dire, je me fais peut-être des idées, certainement, mais bon.
Les petites marottes de Mali, on verra si tu vas être exaucé cette fois-ci. Bon. On a fini avec ces questions sur le DLC. Avant de parler Détective Pikachu, quand même une question. Est-ce que tu les attends avec impatience, ces DLC ?
Impatience, c'est difficile à dire. C'est vrai que Pokémon...
Curiosité ?
Ouais, curiosité. Je suis un peu moins dedans, on va dire, niveau jeu vidéo. Alors, j'aime toujours réfléchir, imaginer des trucs, mais le jeu, bah, j'en ai fait pas mal le tour, donc j'y retourne notamment quand il y a des raids Gigama... n'importe quoi. Raid Terra Crystal événementiel. Là, je vais me remettre au combat avec l'arrivée du Home, donc ça va être cool, mais bon, on va dire, ce que j'en ai vu, ça me transcende pas. Et c'est surtout cette histoire de date qui est un peu bizarre, automne-hiver 2023, ça me paraît super rapproché. Surtout hiver 2023, techniquement, ça laisse une dizaine de jours dans l'année, oui. Donc c'est un peu bizarre. Et je vois pas trop l'intérêt de les sortir à deux mois d'écart, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. J'aurais peut-être plus pensé à quelque chose avec le masque turquoise au mois d'octobre, et puis le disque en janvier ou février 2024. Ça aurait été déjà un peu mieux, mais là, je sais pas. Et ça m'étonnait d'ailleurs qu'ils ne donnent pas de date plus précise maintenant.
C'est peut-être ce qu'ils vont faire. Hein. Je crois que les dates sur l'eShop sont pas les mêmes d'ailleurs. Je crois que sur l'eShop, il te dit début 2024 pour le disque turquoise. Je me souviens d'avoir discuté avec. Pour le disque indigo, pardon.
Oui, il donne un truc bizarre. Je me demande s'il parle pas même du 31 décembre 2024 ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment une fourchette après, très très large.
Ouais, des dates aussi. C'est des dates. Quand t'as pas les dates aussi, ils mettent des. Enfin,
oui, des placeholders, ouais.
Voilà. Donc, c'est. Ouais. Moi, je suis assez curieux. J'espère qu'ils vont vraiment répondre aux questions et je serai assez déçu s'ils ne le font pas. En fait, je trouve que le jeu t'envoie tellement haut au moment où tu le finis, donc la dernière quête, la quête principale, le post-game est intéressant, il y a quand même des choses à faire intéressantes dans le post-game, mais t'as envie d'en savoir plus et c'est vraiment au moment où il s'ouvre que finalement bah, ça retombe. Et je trouve que des mois après, bah, c'est long. En fait, je trouve que
Oui, c'est vrai.
La sortie par rapport du jeu, par rapport au DLC, c'est un petit peu long et on aurait aimé avoir des réponses un peu plus tôt. Et est-ce que la hype ne sera pas passée, hein, finalement? Est-ce qu'on n'aura pas déjà envie d'avoir quelque chose d'autre sous la dent? Peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils veulent les sortir de manière rapprochée. Peut-être qu'ils ont déjà des plans. Enfin, ils ont certainement des plans d'ailleurs sur leur sortie de l'année prochaine. Et qu'il
Oui.
y a des choses prévues.
C'est vrai que tu as raison, parce que quand on y pense, Isole Armure était sorti à peu près cette période de l'année autour du 22-23 juin. C'était en 2020 à l'époque. Et là, voilà, on avait déjà le premier DLC. Le deuxième
Bah
était
oui.
arrivé le 23 octobre, je crois. C'était quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Là, on attend beaucoup. Après, si c'est début septembre, ok, mais ça peut être fin octobre. Donc, ouais, je sais pas.
Après, si on attend beaucoup et que le résultat est à la hauteur des attentes, tant mieux. Là-dessus,
Oui.
moi j'ai toujours dit, hein, Pokémon, prenez un an de plus s'il faut pour peaufiner votre jeu, mais faites un truc hyper carré, au moins techniquement déjà.
C'est
Rajoutez
sûr.
des créatures, faites ce que vous voulez, mais pas nous mettre de Pop-Form de Paldea, vous pouvez en mettre au moins une dizaine, quoi, ça aurait été sympa. Mais
Oui.
voilà, si c'est pour vraiment fignoler et faire un jeu de qualité à la fin, tant mieux. Si c'est un DLC qui va être, on va dire, sympa mais sans plus. Après autant d'attentes, bah, ça va être difficile après que les gens sortent le porte-monnaie plus facilement, quoi. Encore que, tu vois comme ça se vend par palette, Pokémon.
Oui.
Et on peut pas dire, enfin, moi je peux pas dire que j'ai pas aimé le Écarlate et Violet. Je considère que c'est un des meilleurs épisodes, mais il aurait fallu vraiment l'accompagner, le faire grandir en fait, et profiter du socle que ça représente pour pouvoir bah, le faire fructifier. Comme ils ont réussi à faire fructifier, je fais un grand écart, Breath of the Wild avec son DLC, et là avec Tears of the Kingdom. Clairement, qui est une version suraboutie de Breath of the Wild. Donc, est-ce qu'un jour, enfin, est-ce qu'on a vraiment envie d'un Paldea 2? Non, je ne crois pas, mais il faut que cette expérience soit bien conclue par le DLC, et qu'on ait une expérience hyper au carré dans un monde ouvert et techniquement plus réussi pour le prochain jeu, je pense que ça me paraît être un minimum.
Bah, c'est sûr, parce qu'on attaque la 10e génération, après ça sera bah, c'est assez symbolique, et peut-être même 2026 pour les 30 ans de la
Pour les 30
saga.
ans,
Donc,
c'est ce que j'allais dire. Et là, tu peux pas te louper, franchement, pour un anniversaire aussi
ouais.
important.
Donc j'espère vraiment qu'ils vont prendre les choses à bras le corps et à sortir un jeu à la mesure qui rende vraiment honneur à la licence Pokémon. Parce que en ce moment, bah, ces derniers temps, j'ai pas mal joué à Temtem aussi. Alors, ça n'a pas l'aura de Pokémon, évidemment. C'est pas. Les créatures sont pas aussi charismatiques, tout ça. Mais en termes de jeu vidéo en lui-même, on voit que niveau idée, niveau réalisation, ils ont même dépassé Pokémon sur beaucoup de points. Et c'est ça qui est dommage, c'est que sur Pokémon, on reste un peu trop
Les
sur ses
acquis.
acquis. Et voilà. Mais bon, d'un autre côté, Pokémon, maintenant, c'est plus les jeux vidéo qui rapportent le plus d'argent, c'est une licence multidisciplinaire, dirais-je. Il y a les cartes, il y a les peluches, il y a les vêtements, il y a tellement de choses, les dessins animés. Donc, bon, ils ont peut-être que leur stratégie, c'est uniquement de faire grossir la licence en tant que telle, et les jeux vidéo ne sont qu'un outil à l'intérieur.
Et tous les spin-offs, puisqu'on va parler des spin-offs, Détective Pikachu, le retour de Détective Pikachu, on connaît surtout le film, hein, qui a vraiment
Oui.
été un carton au cinéma, mais le saviez-vous, à l'origine, c'est un jeu eShop sorti uniquement au Japon, qui est devenu un jeu cartouche finalement un peu plus dense, qui est sorti sur 3DS à l'époque, donc jeu sur lequel a été adapté le film. Le film d'ailleurs, le deuxième film est entré en pré-production, donc on devrait avoir sur les écrans bah, d'ici quelques années Détective Pikachu 2. On verra bien si on garde le même casting. Là pour le coup, dans le jeu, le retour de Détective Pikachu qui a été annoncé il y a très longtemps, hein, il y a bien 4 ou 5 ans je crois, il y avait zéro image et enfin ils nous l'ont montré, le projet va aboutir. J'étais assez étonné d'ailleurs en le voyant parce que je me dis, s'ils mettent autant de temps, c'est qu'ils doivent vraiment le peaufiner et pour faire un truc vraiment raccord avec le film et tout. Et alors, pas du tout. Vraiment, en termes d'univers, on est complètement dans la continuité du précédent. Et en termes de niveau graphique, Bon, ouais, c'est à peine digne de la Switch. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, c'est pas non plus... c'est ouais, un peu tristouille, quand même.
C'est la Switch en fin de vie, quoi. Ouais, bon.
Ils ont pas fait beaucoup d'efforts, je trouve, en termes de graphisme. Est-ce que tu avais fait le premier Détective Pikachu ?
Je l'ai pas fait en entier, parce que je m'étais vraiment ennuyé assez rapidement, en fait. Et j'ai regardé le film plusieurs fois, et j'ai demandé à quelqu'un si le jeu et le film avaient la même histoire. A priori, c'est pas le cas.
C'est inspiré, on va dire, mais c'est pas...
Sans spoiler le film, avec ce qui se passe dans le film, j'ai vu le trailer de Détective Pikachu 2, je me suis dit, mais quelque chose qui va pas. Et d'ailleurs, ouais. tu m'as appris là qu'il y avait un deuxième film en pré-production, je me demande sur quoi ils vont partir. Vu comment se termine le premier, bah ouais, je me pose des questions.
Et ils vont trouver un moyen, on va pas divulguer la fin, mais ils vont trouver un moyen. Donc là, pour le coup, dans le jeu vidéo Le Retour de Détective Pikachu, on retrouve Tim Goodman, donc le héros, accompagné de son Pikachu assez spécial, parce qu'il parle, évidemment, il parle avec une grosse voix en plus, ça c'est pas le Pika Pika, très sympa, c'est le côté détective, donc il y a un côté parodique des détectives, donc un peu ambiance film noir qui était extrêmement bien retranscrit d'ailleurs dans le film, qu'on ne retrouve pas vraiment dans le jeu vidéo, qui va être plus coloré, plus sympathique et un petit peu plus moumou, on va le dire, hein. C'était pas ça cassait pas trois pattes à un canard artichaut, clairement le premier jeu. J'espère qu'en termes d'énigmes ce sera un peu plus sympa, parce que l'idée en gros c'est un point and click allégé où on parle beaucoup, finalement, on va essayer de faire des déductions, et on est accompagné de ce Pikachu rigolo qui boit beaucoup de café. Voilà, le côté sympa, c'est qu'on va croiser plein de Pokémon, mais ça suffit pas à faire un bon gameplay. C'était pas le cas du premier. Là, franchement, ce que j'ai vu, ça m'a pas rassuré sur le 2. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas profité, d'ailleurs, du film pour faire simplement juste une adaptation, en fait, en jeu vidéo, avec un gameplay qui serait plus dense et un univers plus cohérent vis-à-vis du 2, un tout petit peu plus sombre. On peut pas non plus dire que Détective Pikachu au cinéma soit un film de gangster hyper dark, faut pas exagérer. Non. Mais je trouve que nous ramener à des trucs très ronds, très colorés, très enfantins, finalement, du retour de Détective Pikachu, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je sais pas toi comment tu le sens, mais est-ce que ça t'attire déjà comme jeu ?
Bah, sachant que le premier m'avait pas passionné plus que ça, je sais pas, faudrait vraiment qu'il y ait des nouvelles choses. C'est bête, mais ne serait-ce que des énigmes un petit peu à la Professeur Layton, ça ajouterait peu de consistance et ça rendrait le truc plus intéressant. Là, oui, parler à un personnage, aller lui demander ce qu'il faisait, retrouver un objet, aller lui reparler, comme tu dis, c'est un point and click à l'ancienne, allégé. En plus, oui, c'est pas les mélanges, enfin, c'est pas les Monkey Island et Chevalier de Baphomet
voilà.
Non plus, quoi.
Essayer de se dire comment je combine les objets, qu'est-ce que j'utilise où, tout ça, qu'est-ce qui va se passer comme interaction. Non, c'est quand même beaucoup plus basique. Par petits épisodes en plus, hein, c'est vraiment, on va faire des petites séquences comme ça, assez simples pour pas trop te perdre. Je suis pas sûr que ça redore le blason de la série, en fait. C'est un petit peu dommage. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec le film. Et je ne comprends pas.
C'est vrai, on aurait pu partir sur une DA différente, comme tu dis, un peu plus sombre, entre guillemets, sans rentrer non plus dans n'importe quoi, qui aurait vraiment différencié la série par rapport au reste. Bah, c'est un peu comme les donjons mystères, surtout celui qu'il y a eu sur Switch. Voilà, on a un côté un petit peu crayonné, qui est tout mignon, hein, qui différencie bien des jeux principaux, ou même, on a eu Légende, qui avait aussi son style graphique. Là, oui, on est sur vraiment du Pokémon en 3D, générique. Ça fait plus ou moins le boulot, c'est pas trop moche non plus, c'est pas génial, mais voilà, on n'est pas non plus sur les textures baveuses d'Écarlate Velay, mais d'un autre côté... Bah, c'est pas un monde ouvert, c'est des décors qui sont posés là, la caméra généralement elle bouge pas, donc bon, heureusement que ça arrive à faire un peu mieux qu'Écarlate Violet, surtout que c'est pas le même studio de développement, j'imagine. Donc bref, on va voir, j'attends d'en voir plus.
Mais tu vois, je pense que Detective Pikachu a marché au cinéma aussi pour le design de ses créatures et ce côté un peu complètement barré, je pense à Monsieur Mime par exemple.
Oui,
et
oui.
Je pense que c'est aussi lié au fait que, bah, comme on l'a dit, Pokémon va bientôt avoir 30 ans. Donc potentiellement les joueurs ont plus de 40 ans, hein. Beaucoup de joueurs de Pokémon ont maintenant plus de 40 ans. Il faut aussi pouvoir parler à cette cible, et je pense que le film a bien réussi, mais clairement le jeu n'y parviendra pas.
Oui,
et
tout à fait.
C'est ça qui est un petit peu dommage. Et c'est peut-être d'ailleurs le problème principal de la licence. Quand moi j'entends, alors pas en termes de vente, en termes de vente, ça clairement ça se vend toujours. En revanche, ce que j'entends effectivement autour de moi, c'est qu'il y a plus en plus de joueurs qui finissent par la lâcher, qui ne jouent plus en tout cas autant qu'avant, parce que bah, la licence tend finalement à être un peu moins profonde qu'avant. On l'a vu par exemple avec la suppression de nombreuses capacités, ou la suppression du Pokédex national, entre guillemets. Même si c'est quelque chose que je comprends tout à fait, c'est vrai que tu perds aussi une partie de ton public, malheureusement.
Bah, c'est un peu ce que je lui reproche, c'est que bah, les fans de la première heure ont grandi, mais la licence, pas vraiment. Je pense que la licence Pokémon en général gagnerait à faire quelque chose qui se partage avec tout le monde, voilà, que les parents puissent apprécier, qu'ils puissent faire découvrir à leurs enfants. Là, maintenant, bah, en fait, ça reste des jeux pour enfants que les parents font, surtout par nostalgie, pour accompagner leur petit bout de chou. C'est un peu dommage, même si, bon, il y a eu un petit peu de plus dans Écarlate et Violet, qui aborde certains thèmes plus adultes, on va dire, je pense celui de la Team Star ou l'arc de fin. Voilà, c'est des thèmes, bah, on va dire, plus que les parents vont expliquer, vont aborder avec les enfants. C'est pas mal, mais voilà, j'ai l'impression d'avancer plus vite que les licences Pokémon. Pourtant, je suis pas un exemple de maturité absolue, hein. Je suis pas passé en métro boulot dodo chiantos, non, j'ai toujours un esprit vif et assez jeune, mais voilà, c'est le cœur de cible qui sont décidés. C'est bête, parce que d'un autre côté, je pense que c'est plutôt les parents qu'il faudrait convaincre, parce que c'est eux qui vont acheter pour les enfants, donc... À mon avis, s'ils faisaient des produits, des jeux, des univers qui parlent un peu plus aux parents, les parents seraient un peu plus dans l'incitation de partager ça aux enfants et d'acheter encore plus de choses. Mais bon, ce n'est que mon avis.
Ah là là, on n'est pas, c'est une fin pas très optimiste hein, quand même, j'ai l'impression. Mais écoute, on verra, peut-être qu'on aura de bonnes surprises. Il vaut mieux partir comme ça et finalement pas trop avoir d'attente et puis avoir des surprises très agréables. C'est vrai qu'on est un petit peu dans le creux de la vague en termes d'actualité en plus autour de Pokémon, parce que voilà, le gros jeu est sorti. On n'est plus dans l'effervescence du on va voir le remake, on va voir Légende Pokémon et tout ça. Là pour l'instant, c'est un peu en train de retomber. On attend le DLC et on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé par la suite, en sachant quand même qu'il y a la cinquième génération, une des meilleures en embuscade. On verra comment ils traitent le remake, parce que bon, là aussi Diamant Perle, on pourrait en reparler des heures hein, de comment ils ont traité le remake. Très bon jeu, mais bon, peut-être ça méritait un petit peu plus. Enfin bref, on va pas refaire le match, sinon on va repartir encore pour une autre heure d'émission. C'était en tout cas une discussion sur le DLC de Pokémon Écarlate et Violet qui arrivera donc en fin d'année 2023, si tout se cale bien, on verra bien le contenu. On fera un test, bien sûr, à ce moment-là, on en parlera. Mais on se fera des autres petits épisodes avec Mali pour parler de oui. Tout et de rien sur Pokémon d'ici là. Comme d'habitude, merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve sur le mur des podcasts de West France, dans la section gaming du site westfrance.fr, bien évidemment. Vous mettez des petits pouces, vous mettez des petites étoiles sur vos programmes de podcast, vous vous abonnez. On se retrouve bientôt pour un nouveau Poketalk. Merci beaucoup Mali, on te retrouve sur YouTube, Malison le professeur Lapin.
Bah oui, merci à toi Lou, ça me fait plaisir comme d'habitude.
Prends bien soin de ton ex-cavarène et à très bientôt.
Merci, au revoir à toutes et à tous.
Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.